L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous voilà toujours sur ce cheminement avec l'Évangile pour le couple, qui nous bouscule, qui nous enseigne, aussi qui nous réjouit. En tout cas, on espère que vous partagez aussi cette joie avec nous, de cette révélation, de cet éclairage religieux, bien entendu, mais avant tout existentiel, spirituel, et qui nous éclaire dans nos vies. Et donc, depuis la dernière fois, nous essayons d'approfondir davantage la question de la prière en couple. Et peut-être cette fois-ci d'aborder aussi davantage aussi les aspects un peu plus concrets de la vie de prière, mais peut-être nous rappeler, Maud, le texte que nous avons lu déjà la dernière fois. Je vous dis
que si deux se mettent d'accord ici sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
Voilà, donc comment concrètement trouver notre rythme personnel, conjugal, de prière, quelle forme elle peut prendre. Souvent, ce qu'on a observé, c'est effectivement, il y a des aspects entre guillemets techniques. C'est-à-dire, quand est-ce que je peux le faire le soir, le matin, avant que les enfants se lèvent, la prière en famille, etc. Bon, mais ça, chacun a ses trucs. Le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est la motivation. On voit bien qu'à un moment, on va pouvoir passer X heures sur Internet ou X heures devant la télé ou certains, ils vont se lever tous les matins pour aller faire un jogging, ils vont prendre une heure. Mais quand à un moment, tu leur dis, prends 5 minutes de prière, non. Le fond du problème, c'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est qu'à un moment, on n'a pas saisi l'importance de la prière. Donc, la question, s'il y a des moments où vous vous dites, mais j'ai des problèmes de temps, interrogez-vous d'abord sur votre réelle motivation. Maudin.
Et ça, c'est une difficulté qu'on a tous. La prière, par moments, c'est spontané, ça jaillit tout seul. On a envie d'aller rencontrer le Seigneur comme deux amoureux ont envie de se voir et on ne se pose même pas la question de trouver du temps. Et puis, il y a des moments où c'est plus laborieux. Et c'est aussi une question de décision et de volonté. Voilà. Si je considère que c'est la source qui va renforcer la communion de notre couple, qui va me donner mon équilibre, qui va me faire grandir, qui va créer l'unité dans ma vie, alors, précipitons-nous à la prière. Si on vous disait, pendant 3 jours, vous n'avez pas le temps de manger. Chacun d'entre nous se débrouillerait pour trouver le temps de manger parce qu'on en a besoin. Et c'est parce que justement la prière nous fait rentrer dans une démarche de gratuité qu'on a beaucoup plus de mal à la mettre en premier. Et pourtant, on sait comme c'est important, on sait comme c'est vital, on en a parlé la dernière fois, et que c'est là justement qu'on puise l'eau qui ne tarit pas, la jarre qui ne s'arrête, qui ne se vide jamais, comme on disait à notre dernière rencontre.
Voilà, et puis je crois qu'il y a un point qui est important, c'est que dans notre monde, il y a eu une inversion des tabous. Il y a 50 ans, même entre mari et femme, on ne parlait pas de sexe, on ne parlait pas d'intimité, on ne parlait pas, etc. Par contre, la vie religieuse, on en parlait au niveau de la prière, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le tabou, même dans les couples, c'est la prière. On n'en parle pas. La vie spirituelle telle que l'un et l'autre le vit, on n'en parle pas. Par contre, de sexe, je veux dire, en voiture, en voilà, et que je m'étale, et que ceci, et les vannes oiseuses, et on se vante de ceci. Enfin bon, c'est l'étalage permanent. Donc c'est vraiment l'inversion complètement, c'est l'inversion des tabous. Et autant bien sûr, c'est heureusement qu'il y a eu tout un travail, je dirais, de simplification au niveau de tout le dialogue, au niveau de la sexualité, et même pour les couples chrétiens, heureusement que c'était important de pouvoir aborder les questions très clairement, au niveau de nos rites, au niveau de ce qu'on ressent les uns les autres, enfin l'un à l'autre, pardon. Par contre, sur l'aspect de la prière, c'est du même ordre, c'est-à-dire que nous devons aussi, sur ces questions aussi intimes, personnelles, nous devons aussi pouvoir partager nos joies, nos difficultés. C'est un point très important. En tout cas, c'est une invitation très pressante qui nous est faite.
Voilà, parce que je pense qu'on n'a pas assez mesuré à quel point la prière conjugale est vraiment un rempart contre la division, un lieu de communion, un lieu de nourriture de notre couple. Et il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à prier ensemble. Alors, aucun problème pour prier avec les enfants, mais impossible de le faire à deux. C'est quand même un peu curieux. Il y a une situation là qui est vraiment une inversion des choses. Comment est-ce que je suis capable de me mettre nue devant mon mari et je ne suis pas capable de prier devant le Seigneur avec lui? Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère et qui, je pense, est plus profondément de l'ordre du combat. Si vraiment on a confiance que le Seigneur vient nourrir notre couple et notre amour et qu'il est au cœur même de cette aventure que l'on vit à deux, alors ne nous privons pas du lieu même où on va pouvoir le vivre ensemble, qui est cette prière conjugale, qui est vraiment primordiale dans un couple.
Pourquoi on est capable effectivement de se mettre nus l'un devant l'autre et dans le lit et de faire l'amour, alors qu'on n'est pas capable, la maman, de pouvoir prier devant le Seigneur, ouvrir notre cœur simplement, etc. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc, c'est surtout pas pour culpabiliser, c'est simplement pour inviter vraiment à fouiller, à dire mais vraiment c'est libératoire, c'est important. C'est comme si jamais on découvrait un couple qui couchait jamais ensemble. Mais je dis mais attends, mais c'est important, ça fait partie du cœur de la vie conjugale, de faire l'amour, de s'unir, c'est fondamental. Et ben de la même manière, dans son domaine qui lui est propre, il est important. Pour un couple, parce que ça fait partie de son socle de vie, de pouvoir partager également la prière.
Oui, c'est pour ça qu'on voit bien que la question de la prière conjugale, c'est un problème de conversion, c'est un problème de combat aussi. Il faut le décider, il faut s'organiser pour, et puis il faut le tenir.
Il faut le demander aussi au Seigneur.
Voilà, et on peut le demander aussi au Seigneur, nous donner cette énergie, cette force pour le mettre en place. Mais je crois que c'est un peu, je dirais, quelque chose de fondamental, qui n'est pas assez souligné et dont trop de couples se passent. Et c'est un lieu quand même de vérité, parce que si je prie avec mon conjoint, je ne peux pas raconter des salades devant le Seigneur. Donc je suis là dans l'humilité et je reconnais ma faiblesse et je demande à l'autre d'intercéder pour ma faiblesse, comme j'écoute et j'accueille la faiblesse de l'autre. C'est vraiment un lieu extraordinaire de vérité et de communion. C'est tellement dommage de s'en passer.
Et là encore, l'Église est très claire par rapport à ça. Jean-Paul II qui a fait donc ce travail tellement fantastique sur la compréhension de l'Église, du mystère qui habite le couple, le dit, je crois qu'on l'a déjà cité il y a deux ou trois émissions, c'est précisément vous les époux qui êtes les premiers témoins et ministres de cette nouvelle naissance de l'Esprit-Saint. Ça veut dire que nous avons, de par notre sacrement de mariage, un véritable ministère, nous sommes ordonnés au ministère de la prière en tant que parents, l'un pour l'autre, en tant qu'époux l'un pour l'autre, et en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. Et nous avons vraiment à prier au nom du mystère du Christ pour que le salut soit donné à notre famille, soit donné à nos enfants, pas simplement d'avoir célébré un jour le baptême de nos enfants, mais nous avons vraiment à prier, à invoquer ce baptême que nos enfants ont reçu dans l'Église pour que fructifie en eux. Ils ont besoin d'être introduits dans cette école de la prière. Nos enfants prieront à la mesure aussi ils nous voient prier. C'est très important que nos enfants nous voient prier, que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie.
Oui, c'est pareil, nous parlerons peut-être de la prière familiale tout à l'heure, mais l'essentiel de la prière dans la famille, c'est de voir ses parents prier, et les enfants apprennent à prier en voyant les parents prier, et non pas prier avec les enfants. De toute façon, ils nous voient prier, c'est ça l'essentiel. Il faut prier Dieu en présence de nos enfants. Et de la même façon, la prière conjugale sera le ciment de notre couple, et les enfants savent que c'est le lieu de notre ciment. Et combien de fois nos enfants nous ont interpellés en disant « Oh là là, papa et maman, vous énervez un peu trop là, allez prier tous les deux, ça va vous faire du bien. » Ils savent que c'est le lieu où on va retrouver l'unité.
Si on revient, si on prend un petit peu de recul et on en vient aux aspects, on revient aux questions un peu fondamental, nous sommes, de par notre sacrement de mariage et de par la grâce de Christ, une seule chair. Mais une seule chair, c'est extérieurement, comme on l'a exprimé, c'est une liturgie, une célébration d'un mystère qui est plus invisible au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau de nos âmes. Donc nous avons vraiment cette intimité, cette union de nos âmes à vivre de par l'amour, mais aussi de par la prière. Et donc nous avons à nourrir une seule chair spirituelle, nous avons à le nourrir, et nous pouvons le nourrir au travers notamment de la prière.
Et c'est justement, je pense, un appel aussi de Dieu qui vient nous donner une grâce d'intercession très spécifique pour notre conjoint. Et je pense que parfois on ne l'utilise pas suffisamment. Il faut se confier à la prière de l'autre, parce que quelle prière peut être plus écoutée, entre guillemets, par Dieu que la prière du conjoint ? Une prière juste, évidemment. Comme on a dit tout à l'heure, pas pervertie, pas détournée, pas une prière scude, mais une prière vraiment d'offrande. Voilà, je vois mon mari qui est travaillé par des problèmes professionnels, qui est malheureux parce qu'il y a eu une tension avec un ami ou quelque chose comme ça.
Ou je vois Maud, effectivement, qui est habitée par le souci d'un enfant qui va pas bien parce que c'est elle qui l'écoute plus particulièrement parce que il fait s'ouvrir à elle. Donc là, vraiment, elle est en première ligne. Voilà, donc on va prier ensemble.
Voilà, et on va confier à l'autre. Tiens, j'ai une difficulté là, s'il te plaît, prie pour moi en ce moment sur tel point, pour m'aider à discerner, à avancer. On n'est pas obligé de tout se raconter, mais au moins, on rentre dans cette communion, cette confiance mutuelle. Voilà, je vais devant mon conjoint lui demander de prier pour quelque chose de précis, et je sais que cette prière a du poids et du prix aux yeux de Dieu.
Voilà, vraiment, prions le Seigneur les uns pour les autres, pour que nous puissions découvrir, redécouvrir, accueillir ce don immense de la prière en couple, pour notre couple, pour sa sanctification, pour son rayonnement, pour l'accueil de la joie, mais aussi que cet accueil se répande chez chacun de nos enfants. On se retrouve tout de suite.
Voilà, nous reprenons cette émission d'Évangile pour le couple consacrée à la prière, sur comment prier. On a parlé de la prière conjugale, Alex, maintenant je pense qu'il faut aborder la prière familiale.
Alors oui, alors
vaste sujet.
Alors c'est là où, d'abord un point qui nous semble très important, au regard de notre expérience et surtout de tout ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y a jamais de solution miracle, il n'y a jamais de solution figée. Par contre, la prière en famille est une chose, est une expérience importante à vivre. Maintenant, elle peut se réaliser de multiples manières. Et il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. Par contre, on peut peut-être ici aborder davantage la question de la méthode et des principes. Après, chacun a le décliné de manière concrète par rapport à sa vie, par rapport à l'âge des enfants, par rapport à etc. etc. En tout cas, il y a un premier point qui dit prière familiale, dit prière avec les enfants. Et quelque chose qui est fondamental, mais c'est vrai pour les enfants, mais c'est aussi vrai pour les parents. C'est que la prière, elle commence d'abord par la louange. Elle commence par la louange et par la joie de l'aimer et de le servir. Parce que le Seigneur habite dans son peuple qui loue. Et nous sommes un peuple. Vous savez que la théologie de l'Église applique à la famille le terme d'église domestique. C'est pas simplement un coup de vernis pour faire beau dans le paysage. C'est une vraie réalité. C'est un petit peuple. C'est une petite ecclésiola. C'est un corps. Et ce corps a besoin de se mettre en présence du Seigneur et de le louer. Et on se rend bien compte que combien de familles, effectivement, ont beaucoup de mal à rentrer dans un rituel de prière pendant des années et des années. Et puis le jour où ils ont découvert la louange, spontanée, sur des musiques modernes, en tout cas qui leur plaisent, alors qui gospel, qui des chants charismatiques, qui des chants de louange, des cantiques de ci, de là, après chacun a trouvé son style, mais des vrais chants de louange, et habiter cette louange, alors effectivement, on peut chanter et célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Et c'est comme ça que notre cœur s'ouvre à la présence du Seigneur.
Oui, et puis on sait que la louange est efficace pour briser les chaînes au sens propre et figuré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans les Actes où Pierre et Jean sont dans la prison et ils chantent les merveilles du Seigneur. Et à ce moment-là, toutes les chaînes se brisent et les portes s'ouvrent.
Bon, et notamment les chaînes, et parfois chez les ados là, qui font la tronche. Et on voit bien qu'à des moments, ça peut briser les remparts de ces ados qui vraiment disent non, je ne prierai pas, je ne veux pas prier avec vous.
Voilà. Donc la prière familiale doit impérativement inclure ce temps de louange. Aussi parce que c'est pas parce qu'on est heureux ou pas heureux qu'on loue le Seigneur.
C'est très important.
Ça, c'est quelque chose d'important. Quand on lit les psaumes qui sont proposés par la liturgie, il y a des moments c'est des psaumes tristes, des moments c'est des psaumes gais, ça correspond pas forcément au sentiment que j'ai à ce moment-là. Mais je suis capable de rentrer dans la prière de louange pour louer le Seigneur parce qu'il est Seigneur.
Parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon Créateur, parce qu'il est mon Sauveur.
Voilà, et parce que je rends grâce d'avoir ce Dieu qui m'aime. Après, que je sois moi dans la tourmente, certainement ça peut m'arriver, et ça arrive à tous. Je peux être dans un moment où vraiment j'ai pas la pêche, où vraiment il y a des choses lourdes à porter, des choses douloureuses. Mais je loue le Seigneur parce qu'il est Dieu.
La louange est d'autant plus importante dans ces moments-là. Dans les moments d'épreuve, nous sommes invités à rentrer dans la louange du Seigneur. Et souvent c'est très surprenant ce type de parole et d'invitation, mais combien c'est bénéfique, combien de familles, de couples, de personnes ont rendu grâce à Dieu d'avoir découvert justement que cette louange, eh ben, malgré les problèmes, les épreuves, eh ben, je suis dans la bénédiction, parce que depuis que je crois, plus rien ne peut m'arriver. Hein, c'est ce qu'on avait évoqué il y a quelques émissions sur justement cette confession de Christ. Avant, nous n'avons plus rien à craindre puisque nous sommes dans la main du Seigneur. Et nous avons à le bénir et le louer parce qu'il est Dieu.
Voilà, donc on se permet d'insister sur ce point-là parce que c'est vrai qu'il est souvent moins connu, quoi, qu'en Église, dans toutes les liturgies, il y a toujours un moment de louange. Bon, bien sûr, dans la prière familiale, on peut intégrer l'écoute de la parole, les demandes de pardon, l'intercession, et puis les prières d'abandon, de confiance, de remise dans les mains de Dieu. Tout ça sont des moments forts des prières familiales. Maintenant, je pense qu'il est aussi important d'insister sur le fait que la prière familiale ne doit pas occuper tout l'espace de prière de la famille. J'ai souvent constaté, et c'est vrai qu'on l'a expérimenté aussi en évangélisation, ceux qui reviennent souvent au Christ ou se posent des questions, sont souvent des enfants à qui on a appris à prier seul et qui ont gardé en eux cette capacité de prier seul. Et la prière familiale ne doit pas empêcher un enfant d'apprendre à prier seul, même si son papa ou sa maman va aller avec lui tout seul pour au début l'aider à prier seul. Il y a un moment où l'enfant peut dire Non, maman, reste à la porte, je fais ma prière. Et c'est à ce moment-là que l'enfant rentre en dialogue avec Dieu personnellement. Si on apprend à un enfant à prier seul, jamais il ne cessera de prier.
I need you like the rain.
Ça, je sais, en tant que papa, que c'est un ministère que tu as essayé de mener avec beaucoup d'attention. Et les enfants t'en sont très reconnaissants. C'est vraiment un ministère en plus très marial. Je n'ai pas dit que les pères ne pouvaient pas le faire. Mais en tout cas, toi, tu as joué un rôle particulier dans cette grâce, justement, d'un ministère marial pour éveiller chacun des enfants à la prière. Et là, je crois effectivement que c'est un charisme tout féminin. Donc, cette éducation à la prière, cette introduction à la prière, et c'est vrai, est assez vaste et doit recouvrir une prière à la fois familiale et à la fois personnelle.
Voilà, puis je pense qu'on a aussi la responsabilité en tant que parents d'inventer des liturgies familiales pour les événements forts. La vie de prière n'est pas un moment dans l'espace-temps qui est figé de 5 minutes, 10 minutes ou une demi-heure en famille par semaine ou 5 minutes tous les jours. Non, ça doit irradier toute la vie de famille. Donc il faut qu'on trouve des petites liturgies qu'on invente.
Est-ce que tu peux nous parler voilà. Justement de différentes liturgies
Par exemple, quand la maman revient pour la première fois avec un bébé de la maternité, il peut y avoir une petite liturgie d'accueil, on remet le bébé au Seigneur, qu'on lui rend grâce pour la naissance. Quand le papa part pour un voyage, on prend un temps de prière pour le confier à Dieu, pour qu'il protège son voyage, pour protéger la famille en son absence.
Je me souviens aussi à des moments quand les enfants et les mamans aussi étaient revenus d'une confession, par exemple. Tu sortais faire la croix de baptême, et puis il y avait un chant particulier, etc. Des choses qui se glissent dans la vie, c'est pas du tout des choses qui doivent être figées, etc. C'est quelque chose qui doit respirer la vie, quoi.
Voilà, quand un enfant avait son anniversaire, on prenait un temps de prière spécifiquement pour lui. C'est des moments pour signifier que toute notre vie va être imprégnée par la présence de Dieu, et qu'on va le louer dans toutes les circonstances, ou intercéder, ou prendre un temps pour lui laisser la place dans notre famille.
Alors, c'est aussi un point dans la mise en œuvre concrète de ce ministère de prière familiale et des parents. C'est aussi pour ceux qui le sentent, parce que c'est un geste tout à fait biblique et qui est ancré complètement dans l'expérience des actes des apôtres. C'est aussi l'imposition des mains. C'est qu'à un moment, on peut aussi prier pour un enfant particulièrement, parce qu'il y a une difficulté, si jamais, voilà. Donc, ça peut être dans sa chambre, et peut vraiment aller prier pour lui. C'est aussi ça, nous le faisons aussi l'un vis-à-vis de l'autre. C'est qu'à un moment qu'il y a une difficulté, il y a une épreuve, on va aussi prier particulièrement avec ce geste des mains l'un pour l'autre pour invoquer la bénédiction du Seigneur. Et toutes ces différentes expériences sont très très bénéfiques et positives.
Voilà, ces prières prennent vraiment des aspects extrêmement variés, mais ce qui est certain, c'est que le plus important, c'est de trouver notre rythme de famille spécifique, de le décider ensemble, sachant que dans une vie de famille, ça change tout le temps, et qu'il faut s'adapter aux différents âges, etc. Mais simplement se tenir quand même à cette vigilance, mettre Dieu dans une liturgie familiale régulière. Et alterner les temps de prière individuelle, les temps de prière en famille, les temps de prière en communauté. Tout ça, ça doit respirer selon un rythme qui est propre à chaque famille.
Voilà, pour finir, Maud, on pourrait peut-être recentrer sur quel est l'objectif vraiment de cette prière familiale, de cette invitation à la prière conjugale et familiale avec les enfants.
Voilà, c'est surtout l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que nos enfants aient une rencontre personnelle vivante avec le Christ. Il ne s'agit pas de leur apprendre des rites, il s'agit de les faire rentrer dans cette intimité avec le Christ pour que, à leur tour, ils puissent s'approprier la joie de cette bonne nouvelle que nous essayons de leur transmettre.
En tant que parent chrétien, confessant la foi, vivant de l'Esprit Saint, en tout cas essayant, je crois vraiment que c'est un de nos objectifs principaux de la vie en tant qu'éducateurs de nos enfants, c'est de les accompagner sans aucun complexe, en le désirant fortement, que chacun puisse vivre cette expérience, cette action de l'Esprit-Saint dans leur vie, cette rencontre intime avec Jésus, amoureuse avec Jésus. Ça ne nous appartient pas. C'est le mystère de Dieu et de la liberté de l'enfant. Mais en tout cas, nous pouvons fortement y contribuer au travers du climat et de comment nous, entre guillemets, nous organisons aussi, faisons différentes propositions. Et c'est justement cette bascule de la rencontre de Jésus et de Dieu par nos enfants qui sera vraiment le roc et le ciment de leur vie chrétienne pour toute la vie.
Voilà, et comme dit Jean-Paul II, nous avons, nous, parents chrétiens, à les enfanter aussi à cette vie divine et cette vie en Christ vivante.
Voilà, j'espère vraiment que ces quelques éléments de partage vous aideront vraiment à vous accompagner dans ce ministère de parents et d'enfanter vos enfants à la vie spirituelle. Que le Seigneur vienne vous bénir, vous et vos enfants, et qu'il nous conduise par son Esprit Saint. À la semaine prochaine.